durée du temps.
Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. En 2012, notre invité s'investit dans un projet fou, celui de devenir viticulteur. En 2016, le vignoble a produit 12 tonnes métriques de raisins. Cette année, la récolte a été de 20 tonnes. Et avec le temps, les vignes vont probablement atteindre leur plein potentiel de productivité au cours de soit cette année ou des prochaines années, à tout le moins on l'espère bien. Cette récolte a permis la production de 3000 bouteilles de blanc et de 1000 bouteilles de rouge. Un vin rosé est aussi en préparation, dit-on. On va tout savoir cela dans quelques instants, puisqu'au gré du temps, le projet fou évolue magnifiquement. Et pour nous en parler avec grand plaisir, Sébastien Daou, des Vignes de Bacchante.
Bonjour!
Est-ce que le vin évolue comme vous le voulez?
Oui, jusqu'à maintenant, ça évolue très bien. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec toute l'expertise qu'on a au Québec puis l'expérience qu'on a au Québec. J'en profite énormément. Et donc, on a fait des deux rouges, on a fait un blanc, un rosé dont je suis très fier. Et puis, on se réserve des petites surprises pour qu'est-ce qu'on vient de mettre tout dernièrement en cuve. On se réserve des petites surprises pour l'année prochaine.
Pour le néophyte, un rosé, c'est un mélange de blanc et de rouge?
Il y a plusieurs façons de faire des rosés. Dans mon cas personnel, on va presser peut-être 85% de raisins rouges. Dans mon cas, c'est du maréchal Foch, qui est très teinturier, donc je dois le diluer un peu avec du raisin blanc, et dans ce cas-ci, du céval blanc. On les presse ensemble. La plupart du temps, les vins rouges, on va avoir tendance à les fouler, les égrapper, les mettre dans une cuve, les laisser macérer ensemble et par la suite les presser. Là, ici, on fait juste une pression. On ne laisse pas cette macération-là arriver. Donc, c'est une formule un peu à part. C'est de prendre du vin rouge, mais de le traiter comme un blanc.
Pour la production, le vin rouge est plus compliqué à produire que le vin blanc?
Oui, le vin rouge est plus compliqué que le vin blanc. Il est plus compliqué. Il y a une étape de plus, oui. Par contre, une fois que la fermentation est faite, je dirais que j'ai eu beaucoup moins de problèmes à m'en occuper que le vin blanc. Il y a des fermentations malolactiques, des transformations d'acide. Le vin blanc est un milieu un peu plus difficile pour certaines bactéries se développer dedans, des bactéries qu'on veut, des transformations biologiques qu'on veut dans le vin, qui sont plus difficiles à effectuer un peu dans le blanc, mais ça peut avoir rapport juste avec le viticulteur ou le vigneron en question et non pas avec la réalité de la chose.
En début d'émission, il y a quelques instants, vous disiez que grâce à l'expertise qu'on a développée ici au Québec, il est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de production de vin au Québec. Alors qu'il y a quelques années à peine, on n'était pas du tout présent dans ce domaine.
Il y a eu des pionniers au Québec. Tout le monde pense à l'Orpailleur, notamment, avec Charles Henry, puis avec quelques autres qui étaient autour, puis qui sont encore en place, ou certains qui, malheureusement, nous ont quittés, mais qui ont fait énormément de démarches auprès des gouvernements, qui était le bloc le plus important à l'expansion de l'industrie, qui ont fait beaucoup de travail auprès du gouvernement pour rendre ça acceptable et par la suite rendre ça désirable comme industrie. Maintenant, je pense, prenez-moi pas sur les chiffres, mais je pense qu'on est rendu une centaine de vignerons au Québec de toutes les grandeurs, autant avec des vieilles vignes qu'avec des vignes toutes jeunes, avec du vinifera ou avec des vignes qui sont des hybrides qu'on appelle, qui sont plus faites pour résister à l'hiver.
Ça part de Saint-Paul-d'Abbotsford jusqu'aux frontières américaines.
Jusqu'aux frontières américaines, on en a même qui sont dans la région de Québec puis au-delà, plus au nord de la région de Québec aussi. On en a un peu partout. Il y en a certains dans les Laurentides, même, il me semble, dans le coin de Rouen aussi. Donc, on en a un peu partout.
Mais à Hemingford, paraît-il, qui sont très, très bons.
À Hemingford, on a la chance d'en avoir 4 qui sont à l'intérieur de, même pas 5 minutes de voiture. Et tout autour de Hemingford, jusqu'à Saint-Jacques-le-Mineur, jusqu'à Pierreville, à Vlock de l'autre côté, on en a, je pense, 4 autres. Donc, on a une petite route des vins moins bien connue.
Mais donc, on est sorti des ténèbres dans la production de vin.
Définitivement.
Et vous n'êtes plus un étranger dans ces ténèbres. On pourrait dire que vous n'êtes pas strangers in the night.
On pourrait dire ça. Bel enchaînement. Effectivement, oui, tout à fait.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night.
Frank Sinatra.
Oui, ah, c'est la chanson de ma conjointe et moi, c'est notre petite chanson.
Ah oui, vous dansez sur cette chanson?
Oui, oui, on a, sur Strangers in the Night, on faisait un foxtrot-lan, oui, il me semble que c'était un foxtrot-lan qu'on faisait
parce
là-dessus.
J'ai appris par mon petit doigt que vous preniez des cours de danse, c'est vrai?
Oui, effectivement, c'était, je mentionnais dans l'émission précédente que j'aimais écrire, et à un moment donné, je me suis frappé à un personnage qui devait danser, et j'étais incapable de décrire c'était quoi de danser. J'avais plein de mots à ma disponibilité, mais aucun sentiment, aucune sensation de ce que c'était. Et j'ai dit à ma conjointe à ce moment-là, est-ce que tu aimerais prendre des cours de danse sociale avec moi? En 5 minutes, elle m'avait trouvé 10 écoles différentes où il pouvait y aller.
Elle avait le goût, elle
aussi. Et elle voulait que je signe quelque part pour dire, là, tu changes pas d'idée, là. Hein? Fait que, donc, oui, effectivement, on a pris nos petits cours de danse sociale. On s'en rappelle plus tout à fait depuis qu'on a les enfants, mais disons que si on s'y remettait, c'est comme apprendre du vélo. Ça revient assez rapidement.
Le vin s'accompagne bien quand on danse.
Avec la danse, oui, oui, tout à fait.
Avec un petit fromage.
Avec un petit fromage, puis avec notre conjointe, c'est merveilleux.
Dites-moi, il y a quand même beaucoup de science dans la production du vin.
Oui.
Je vous entendais mentionner tantôt l'acidité, le taux, par exemple, de sucre.
Oui, le taux de sucre, effectivement.
Il
oui.
y a plein de choses qu'on doit maîtriser.
Oui.
Ça s'apprend sur le tas ou?
Ça s'apprend sur le tas, mais quand on est coaché, pour utiliser l'anglicisme, par un œnologue. Ça va beaucoup mieux. Puis j'ai la chance d'avoir un bon œnologue, Jérémy, qui est très patient avec moi. Jérémy d'Hauteville, donc qui fait partie d'un regroupement d'œnologues qui aide différents vignobles au Québec comme ça. Puis Jérémy justement me donne un bon coup de main, il me donne des recettes et il me fait poser des réflexions sur où je veux m'en aller, qu'est-ce que je vais avoir comme profil. Il corrige les erreurs aussi que je fais parfois de manipulation.
Mais c'est normal.
Tout à fait, on apprend. Mais c'est pas apprendre avec 1000 litres puis apprendre avec 10 000 litres, c'est différent.
Tout à fait. Parce qu'il en demeure pas moins que c'est aussi une entreprise.
Oui.
Alors, il faut pas s'en aller dans une direction qui nous amènerait à ce que cette entreprise ne lève pas.
Oui,
l'objectif,
exactement.
C'est de faire une entreprise qui soit bonne au plan de sa production,
oui,
qui soit aussi lucrative, qui nous permette de bien,
oui,
vivre,
exact,
et de profiter de l'expertise que l'on développe au fil du temps.
Exactement. Mon objectif, c'est sûr qu'il y a notamment un objectif de rentabilité, mais de ne pas perdre la tête non plus,
mm-hmm,
à l'obtenir. Donc, il faut que je prenne du temps pour moi aussi à l'intérieur de ça. Ce qui était difficile auparavant, parce que je jumelais deux emplois, la fin de semaine et les soirs au vignoble, et le jour à un emploi normalement rémunéré. Depuis le départ de mon père, je m'occupe à temps plein du vignoble, mais je ne suis pas rémunéré, ni d'une part ni d'autre. Donc, c'est une situation temporaire, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrive dans une situation où je vais être capable de commencer à me payer un salaire.
On va revenir là-dessus, parce que là, vous avez sauté sans filet, comme on dit,
oui,
n'est-ce pas? Mais on va revenir à la musique. La prochaine pièce, ça, c'est une belle découverte aussi.
Oui.
Faut que vous m'en parliez un petit peu.
Alors, donc...
Ibanam Nouchif.
Et c'est une chanson qui a été inventée de toutes pièces. Et c'est un langage qui a été inventé de toutes pièces. Le langage est le Fremen. Le Fremen est la langue parlée sur la planète Dune dans le livre de Frank Herbert.
Ah oui.
Le film,
oui.
Donc, on a vu le film Dune. Il y a eu par la suite une télésérie Dune.
Il y a eu des jeux Dune.
Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Il y a eu des jeux aussi. Mais j'ai connu Dune, le film, avant les jeux. C'est ça, donc. Et Imran Nouchif, donc, c'est une chanson en Fremen inventée pour l'émission de télévision, la courte série télévisée Dune.
Ah bon.
Et c'est juste des paroles inventées. Frank Herbert était bon, un peu comme J.R. Tolkien était bon à inventer des langages, et il a inventé un langage tout autour de ça.
Et la voix qu'on va entendre, c'est celle d'Azam Ali.
Exactement. Une très belle voix que je ne connaissais pas, et puis ça m'a forcé à aller découvrir un peu cette voix-là. Je suis toujours béat de toutes ces voix qui existent, donc ça me l'a fait découvrir. C'est une très belle voix.
On tend l'oreille. Effectivement, très, très, très beau. Vous en avez d'autres dans votre sac comme ça?
J'en ai énormément. Donc.
Vous écoutez beaucoup de musique?
À peu près tout le temps lorsque j'écris notamment, mais aussi lorsque je suis sur mon tracteur à ce qu'on appelle grober ou à travailler la terre entre les rangs de vignes. Peu importe lorsque j'ai besoin d'être stimulé ou d'avoir le cerveau complètement déconnecté. Dans les deux cas, je vais me retrouver avec la musique.
Ce goût de l'écriture, ça vous vient d'où?
J'en ai aucune idée. En fait, de mon professeur de deuxième année au secondaire, Monsieur Mondou, je m'amusais à écrire ce qui se passait dans l'autobus de façon humoristique sur un petit bout de papier.
Vous étiez un pince sans rire.
Oui, un peu pince sans rire. Comme
et
ça
papa.
Impressionnait beaucoup la jolie fille qui était à côté de moi au secondaire. Et ça la faisait bien rire. Et j'aimais la faire rire. Et Monsieur Mondou a pris ce papier-là, a commencé à lire. Il a dit, c'est très bon, est-ce que je peux le lire devant la classe? Et il le lit devant la classe. Ça a fait rire mes copains. Et par la suite, il m'a dit, j'aimerais ça qu'à chaque semaine, tu m'écrives quelque chose autour de ça. Et par la suite, j'ai toujours un peu écrit, à des moments beaucoup plus, à certains moments un peu moins. Jamais de façon extrêmement structurée, mais toujours de façon très plaisante.
Mais la concurrence était vive à l'école secondaire, parce que vous avez fréquenté le Collège des Trinitaires.
Oui, le séminaire de la Sainte-Trinité,
oui,
bien sûr.
Où les garçons étaient majoritaires.
Oui, effectivement.
Et
oui.
Donc, on devait se disputer les quelques demoiselles qui étaient sur place.
Oui, puis c'est pas comme si on avait une école dans les alentours où il y en avait d'autres. Non, effectivement. Puis étant donné que j'étais geek et assez boutonneux. Je n'avais absolument aucun intérêt pour qui que ce soit de ce côté-là. Donc, fort heureusement, par contre, j'avais de très bons amis. Puis, ce sont encore de très bons amis aujourd'hui. Robert, Claude-Édouard, Frédéric, Marc, de très bonnes personnes que je revois encore aujourd'hui, mais à cause du Vignoble, j'ai jamais assez de temps pour les voir comme je voudrais les revoir.
OK. Il en demeure pas moins que vous avez pris un chemin un peu différent de vos camarades qui s'en allaient pour la plupart dans le domaine des sciences.
Oui, effectivement.
Alors que vous aviez déjà très jeune un objectif au plan des affaires,
oui.
Peut-on dire. Vous avez fait Brébeuf par la suite.
Oui.
Ensuite, ça a été les HEC.
Effectivement, le bac et la maîtrise tout de suite après. J'aurais peut-être entrepris le doctorat si ce n'était que le mémoire m'a convaincu de ne pas faire de thèse. C'était extrêmement compliqué. Mais non, effectivement, ça a toujours été le monde des affaires. Mon ami Frédéric aussi, avec qui je me tenais beaucoup, c'était le monde des affaires qui l'intéressait. Mes amis étaient plus, effectivement, dans les sciences. Le séminaire de la Sainte-Trinité était très science. Il y avait des bons laboratoires à cette époque-là et tout. Donc, c'était une école vraiment pour les sciences.
Alors, vous aviez quand même un beau profil pour réaliser ce que vous réalisez maintenant.
Tout le bagage d'expérience que j'ai eu de tous les emplois que j'ai eu. Autant j'ai pu les maudire à un certain moment, autant ils m'ont énormément apporté pour justement entreprendre ce projet-là.
Je vais vous permettre un beau 10 minutes de belle détente. C'est une pièce extraordinaire. C'est le deuxième mouvement imprégné et indiqué romance Larghetto du concerto pour piano et orchestre numéro 1 en mi mineur opus 11 de Frédéric Chopin. Et c'est Janina Fialkowska et l'Orchestre symphonique de Montréal, mais de Vancouver, sous la direction de Bramwell Tovey qui interprète le tout. Juste un mot sur Janina Fialkowska. Elle a pris son envol dans les années 70 après une prestation au concours Rubinstein en Israël. Et c'est Arthur Rubinstein lui-même qui est devenu par la suite son mentor. Elle a remporté en 2012 le prix du gouverneur général du Canada pour les arts du spectacle. Alors, c'est une grande pianiste canadienne. On se permet ce beau moment qui va peut-être faire en sorte que le raisin va maturer beaucoup mieux.
Espérons-le.